L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Et nous voilà au rendez-vous. Bonjour Bernard Vacherot.
Bonjour mes chers amis, bonjour à toi Jean.
Ça va bien ?
Ah oui, ça va, mieux, mais bon, ça va.
Nous reprenons le fil comme ça, sans autre commentaire sur
oui,
votre santé
nous pouvons,
et tout ça,
reprendre, nous pouvons reprendre le fil. Hein. Wow. Nous en étions à donc Luther et aux 95 thèses qu'il avait soumises à la noblesse chrétienne de la nation allemande, et ça c'était en 1517, hein, et qui lui ont valu en 1520 une condamnation formelle de la part de Rome. Hein. Alors, nous avons vu qu'il avait traduit la Bible entre 1521 et 1534, il l'avait traduit en langue vernaculaire en allemand, bon, contemporain d'alors, et cela aussi avait été condamné. Bon, alors maintenant, nous allons entrer plus vraiment dans d'autres questions qui avaient été évoquées par Luther, en particulier celle du mariage des prêtres, ou plus exactement la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés, comme cela se pratique encore couramment dans toutes les églises d'Orient. Ainsi que la possibilité de donner la Sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles, comme nous le pratiquons maintenant depuis les réformes de Vatican II, et comme ça se pratique toujours en Orient. Et aussi, alors il y a eu la question, évidemment, dès qu'on parle de communion, c'est la question du thème de la présence réelle dans l'Eucharistie. Ça a été débattu, nous verrons par la suite ce qui en a été dit. Il furent abordées encore des questions sur le sacrement de pénitence, qu'actuellement, dans l'Église catholique romaine, nous appelons le sacrement de réconciliation et d'extrême-onction, qu'actuellement encore nous appelons sacrement des malades. Rome durcit ses positions sur certaines questions, dont évidemment celle du sacerdoce, surtout lors de la troisième des sessions, débutée le 14 juillet 1563, où furent édictés les décrets sur le sacrement de l'ordre, la hiérarchie, les séminaires, l'éducation du clergé et les visites des diocèses par leurs évêques, avec pour eux obligation de résidence dans leur diocèse, obligation bénéfique aux diocèses concernés par trop d'évêques qui ne connaissaient pas leur diocèse, faute d'y résister. Et d'y résider, pardon.
Oui, un peu comme,
oui, pléonasme.
Un peu comme les nobles à la cour qui étaient comtes de ceci, marquis de cela, sans y avoir
et qui n'étaient jamais chez eux.
Mais qui recevaient quand même des subsides provenant de quelques impôts collectés sur ces régions-là.
Certes.
Bon.
Mais nous connaissons cela même aujourd'hui, où il y a ce qu'on appelle les cumulards.
Non.
Il me semble, n'est-ce pas?
Non, bon. Mais ils travaillent, alors.
Oui. Alors donc, le concile a exigé, le concile de Trente, que les évêques soient présents dans leur diocèse, connaissent leurs fidèles et leurs clergés, tandis qu'ils les ignoraient superbement, n'ayant souvent à l'égard du clergé rural qu'un mépris à peine voilé et totalement indifférent aux conditions de vie spirituelle et matérielle de celui-ci, qui d'ailleurs le leur rendait bien, en adhérant plus ou moins ouvertement aux idées calvinistes ou luthériennes ou encore gallicanes, voire, dans certaines contrées méridionales de la France, en adhérant secrètement à l'église des prédécesseurs du dernier pape, du dernier des papes d'Avignon, à savoir Benoît XIII, alias Pedro de Luna, pape de 1394 à 1423, décédé à Peñíscola en Aragon en 1423, et qui ordonna pape Clément VIII, alias Gilles Sanchez de Muñoz, qui fut pape de 1423 à 1429, et rejeté comme schismatique par Rome, auquel succédèrent Benoît XIV, élu à Villefranche-de-Rouergue en Aveyron, pape schismatique, enfin dit schismatique, de 1429 à 1430, dont le nom de famille fut Bernard Garnier, puis Jean Carrier, élu pape à Rodez, en Aveyron, donc de 1430...
En Aveyron, peut-être.
En Aveyron, oui, pardon.
En Aveyron, vous me dites, ça, vous ramez, là. Hein.
Oui, complètement. Et je rame dans la flotte. Hein. En 1430, sous le nom de Benoît XIV, bis, hein, c'était le deuxième Benoît XIV, et le resta jusqu'en 1437.
On a droit à des bis comme ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, il y a eu un problème de canonique, disons, de succession. Hein. Et c'est resté jusqu'au moment de la Révolution et plus tard encore. Mais ça, bon, c'est une autre histoire. Tous les décrets du Concile de Trente furent officiellement entérinés et confirmés le 28 janvier 1564.
Ça veut dire qu'un oui. concile, ça peut durer très longtemps, parce que...
De 1545 à 1563, mais il faut dire qu'il y a eu aussi un moment, 10 ans d'interruption, bon, et ça s'est déroulé en plusieurs séances.
Hein. Et à ces conciles-là, comme c'est des...
Oui.
C'est qui, des cardinaux qui sont là?
C'était les cardinaux, les supérieurs monachiques aussi de grands ordres religieux, franciscains, bénédictins, etc., etc.
Bon, sur une vingtaine d'années, ça peut se renouveler, hein, finalement.
Ah, tout à fait. Et il y a eu, d'ailleurs, des séances qui ont été houleuses. Mais, dans quelques temps, d'ailleurs, en développant l'histoire, nous en reparlerons plus en détail, ça a été souvent houleux. Et il y a eu, puisque vous avez posé la question, je fais une parenthèse, là, il y a eu aussi les interruptions dues à des mouvements politiques, tout particulièrement les batailles incroyables entre Charles Quint, autrement dit Charles V, empereur germanique, roi d'Espagne et de Sicile, un peu d'Italie aussi, en certains endroits de l'Italie, et son collègue et ennemi, François Ier, roi de France. À un moment, François Ier soutenait Rome contre Charles V, et puis quand il pensait que le vent allait tourner, il ne soutenait plus Rome. Enfin, ça a été un peu la pagaille.
Et donc, il y a eu plusieurs sessions.
Ah oui, tout à fait. Alors, en ce qui concernait la notion de sacerdoce, le Concile de Trente reprit, développa et confirma ce qui avait déjà été dicté au Concile de Latran en 1139, en particulier sur la question du célibat sacerdotal, le rendant obligatoire, du moins, pour l'Église latine d'Occident, selon les principes de la réforme dite grégorienne, c'est-à-dire du pape Grégoire VII, qui avait été pape de 1073 à 1085, puis... Ensuite, nous avons eu une reprise à propos des prêtres fornicateurs et simoniaques.
Ce concile de Trente, est-ce qu'il a vraiment été positif dans l'histoire, dans la mesure où, juste à la fin du concile de Trente, débutent les guerres de religion?
Alors, le concile de Trente, comme tout mouvement d'homme, tout mouvement humain et religieux, bon, bien sûr... est influencé par toutes les mouvances externes. Ce qui produit une espèce de bouillonnement dans lequel il y a le meilleur et le pire. Bon. Le meilleur a été la prise de conscience là, je fais une parenthèse, puisque vous posez une question, la prise de conscience des réformes nécessaires de toute l'Église, en tout point, qui avait été proposée aussi bien par les réformés de l'époque, Luther, bon, et puis les protestants de Calvin, etc., que par des catholiques eux-mêmes convaincus, hein, et qui n'acceptaient pas du tout ce qui se passait dans l'oligarchie ecclésiastique du moment, le népotisme de certains papes, l'oligarchie de l'autre, etc., etc. Bon, quand vous pensez à Alexandre VI Borgia, qui avait un fils appelé César, César Borgia, sans parler de sa femme et d'une maîtresse, la fameuse et célèbre Lucrèce. Bon, quand vous pensez que César Borgia, âgé de 17 ans, avait été promu cardinal et cardinal archevêque, bon, et que monsieur possédait un château en Italie dans lequel il invitait tous ses ennemis politiques pour les faire assassiner. Enfin, de la main d'un cardinal archevêque, c'est quand même énorme.
Tout ça, c'est pour passer à la postérité dans une série télévisée. Non, mais quand même, oui. Pour revenir à des choses qui moi, me perturbent quand même.
Oui.
On est quoi? On est même pas 100 ans après Gutenberg et la première Bible imprimée.
Oui.
Le Concile de Trente décide que non, on va pas la traduire dans les langues vernaculaires, on va continuer le latin. Alors, je peux pas empêcher de faire un rapprochement avec cette histoire de traduction de la prière là dont on a appris récemment, que Dieu ne pouvait pas nous soumettre à la tentation, que c'était une ânerie et qu'on l'a répété depuis très longtemps.
Entre le mot ânerie et le mot erreur de traduction, je préférerais in medio stat virtus, quelque chose de plus médian.
Oui, mais c'est ce que disaient tous les scribes quand ils faisaient une ânerie.
Bon, nous n'allons pas parler de la mule du pape. C'était un pape d'Avignon, justement. Bon, non, mais vous faites bien d'en parler, puisque vous avez fait allusion à ça, je donne deux, trois éléments. C'est Matthieu et Luc qui parle de la prière que le Christ, la seule qu'il ait laissée à la communauté chrétienne, de ses disciples. Alors, il faut bien rappeler que Matthieu a fait trois écrits, on va dire. Deux, principalement. Le premier texte en araméen, dans les années 50, à peu près, après Jésus-Christ. Et il a repris ce texte pour en faire le texte grec. Ça, c'était 70-80, approximativement. Et le texte grec a été repris, entre autres, par saint Jérôme. Donc, alors là, on va aller au 4e siècle, à peu près. Bon. Et par saint Jérôme, en latin. Bon. Luc a été moins remanié, puisqu'il n'avait pas écrit en araméen. Bon. Donc, c'est vrai que la suite des reprises et des traductions a pu amener des changements de mots et de sens. C'est exact. Bon, combien de fois moi-même, dans mes recherches d'histoire, je dois m'armer de dictionnaires grecs et latins pour essayer de retrouver étymologiquement le vrai sens du mot. Car il n'y a pas eu un langage latin, il y a eu plusieurs langages latins. Et le langage latin de l'Église n'est que souvent un latin de cuisine.
C'est vous qui l'avez dit.
Oui. Bon, il y a le latin littéraire de Virgile, par exemple, grand poète. Bon, mais le latin d'Église n'est pas toujours un latin classique. Le grec, pareil. Le grec écrit par des grands auteurs grecs, on va dire Socrate, Platon, etc., etc., bien, n'est pas toujours le grec chrétien. Épiscopos, par exemple, est un mot chrétien pour dire évêque. En termes littéraires, en grec littéraire, on va dire papas. Eh oui.
Bon, alors fin de la parenthèse, mais on va écouter une musique et après je vous poserai quand même des questions parce que ce concile de Trente me perturbe, moi.
m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murènes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin chez air, pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la paix. La nuit je mens, je m'enlave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Chercher à te plaire, dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Il subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, tu fais danser tant de malentendus. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore.
Une curiosité, Sophie Tite qui interprète La Nuit je mens d'Alain Bachung dans l'émission de Bernard Vachereau.
Oui, salut.
Oui, oui.
Mais... Alors, je dois dire à nos chers auditeurs que vous êtes en train de vous marrer parce que j'ai la patte, du fait d'une opération, allongée sur un haut tabouret et je fais en sorte, je fais en quelque sorte ici, d'accord, une émission d'accord, de Jean Banlaire.
Oui.
Bon, une partie de Jean Banlaire.
C'est vrai que je vais publier des photos.
Oui. Alors,
bon, il nous reste que 4 minutes pour cette session.
Alors justement, nous étions sur cette question du sacerdoce et notamment du célibat sacerdotal, etc. Et le Concile Vatican II, alors pour parler plus moderne, tout à fait, tenu de 1962 à 1965. Sur le sacerdoce, enfin, entre autres, parlant du sacerdoce, tout en tenant compte de ce qui avait été dit au Concile de Trente, bon, a quand même réorienté largement une conception du sacerdoce qui était devenue obsolète, hein, disons-le, bon, et vers une vision beaucoup plus adaptée aux besoins du monde actuel et proche de ce qu'il fut en ses origines historiques. Néanmoins, comme il ne concerne pas la période qui nous intéresse présentement, nous n'y entrerons pas davantage. Toutefois, je tiens à rappeler que le pape François vient d'introduire toute une réflexion sur cette question. Bon, une décision formelle n'a pas été prise, et ne sera prise que très prudemment, bon, dans quelques années. Mais une réflexion sérieuse à ce sujet est déjà lancée. Alors maintenant, abordons la question, une question qui va nous tracasser pendant toute l'histoire de l'Église, et notamment le XVIe siècle. C'était la question des rois et de l'Empire dans le problème de leurs oppositions au pape de Rome. Alors, on ouvre là un passage que j'intitule « Problématique de l'opposition des papes et des rois et empereurs au cours des XIIe et XIIIe siècles ». Allons voir ce jeu qui va influer sur même les abbayes, nous le verrons. Alors, la notion de pouvoir, de sa répartition, de ses attributions est très variable et change selon les circonstances, les lieux et époques de l'histoire. Et les aspects juridiques, législatifs de celui-ci n'échappent pas, bien au contraire, à la règle. Vouloir analyser juridiquement et historiquement la notion de pouvoir selon nos critères modernes, sans tenir compte de ceux du passé, serait une énormité indigne d'un historien et d'un analyste objectif et scientifiquement rigoureux, donc crédible. Alors maintenant, ceci dit, étymologiquement parlant, le mot de pouvoir vient du latin littéraire, posse, ou du latin populaire, potere. D'après Bloch et von Wartburg, auteur du dictionnaire étymologique de la langue française, aux éditions Presse universitaire de France, 10e édition 1994, ce serait vers les années 1080 qu'en Occident, le terme de possé, les termes de possé et de potéré auraient vraiment commencé à prendre un sens politique ou administratif.
Non, je voulais vous couper la chic parce que sinon on va déborder.
Oui, d'accord.
Il va falloir qu'on reprenne la semaine prochaine avec tout ça.
D'accord,
le
volontiers.
Le pouvoir, d'où ça sort, où ça va.
Oui.
Merci Bernard Vacherot.
Avec plaisir,
à la semaine
mon
prochaine.
Ami.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.